On a tous des besoins. La fameuse pyramide de comment? Ouais. Alors, on a tous des besoins. On doit répondre à ces besoins, que ce soit les besoins vitaux et tout ce qui reste. Ça marche? Mais quand Dieu nous a créés, on a nos besoins, mais il y a prévu de pourvoir à ces besoins. Et souvent, ça, on l'oublie. On essaie de pourvoir à nos propres besoins. On court après la réussite, on court après notre intégration dans un groupe, on cherche toutes sortes de choses et on essaie nous-mêmes de répondre à nos besoins. Et pourtant, Dieu, lorsqu'il t'a créé, il a dit, voilà, moi, je te crée, tu as un objectif, mais je vais répondre moi-même à tes besoins. Et ça devient intéressant. Parce que ici, on a tous fait nos études dans un objectif, on a tous fait ce qu'on a fait dans un objectif. Mais comment alors la parole de Dieu nous appelle à vivre cette vie qui est concrète, où il faut manger, où il faut travailler, où il faut s'épanouir, et en même temps être un chrétien établi et mature spirituellement? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le concret de tous les jours et parfois la vie spirituelle d'un autre côté. Alors, on va voir un peu pourquoi on a été créé. Alors, tu peux nous donner le premier verset que je t'avais donné, Cassandre. Romains chapitre 3, versets 23, 22 à 24, qu'on connaît très bien. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de quoi ? De la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est-à-dire que parfois nos besoins personnels, notre recherche de réussite, toutes ces choses-là, peuvent nous rendre esclaves. Et on voit que c'est ce péché quelque part qui nous a privés de la gloire de Dieu, qui nous a privés de la présence de Dieu. Alors, on peut compter que sur nous-mêmes pour réussir. Vous comprenez? Mais on nous dit que par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? On est justifié, on est rendu juste, donc on peut revenir dans cette présence de Dieu. On a été coupé de la présence de Dieu. Alors, premièrement, Alors, on nous dit que Christ nous apporte la délivrance. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme délivrance? Qu'est-ce que Christ nous apporte? Jean chapitre 17, verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi sommes un. » Jésus dit lui-même de sa bouche, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » La gloire qu'on avait perdue. Et maintenant, par ta foi en Jésus-Christ, t'es justifié, et qu'est-ce qu'il fait Jésus? La grâce, c'est gratuitement, il te dit maintenant je te donne la gloire. Il te la donne. C'est intéressant, hein? Donc Christ nous donne la gloire, sa propre gloire, la gloire de Dieu. C'est pas un petit truc, c'est pas bon je te délivre et continue ta vie. Non, je te donne la gloire, je te donne tout ce que j'ai eu, tout ce que le Père m'a donné, je te le donne à toi, parce que t'as foi en moi. Parce que j'ai décidé, parce que c'est un don. Tu n'as rien mérité, je te le donne. Si tu crois en moi, c'est la seule condition. Donc ça, c'est le premier point. Jésus nous donne toute la gloire. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14. Qu'est-ce que nous recevons? Même si on t'insulte parce que tu appartiens à Christ, heureux es-tu, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur qui? Sur toi. Même dans les difficultés, même quand tu vas être cassé, même quand tu vas sortir à l'espace café et qu'on va te dire « c'est bon, arrête un peu tes âneries », eh bien, l'Esprit glorieux repose sur toi. Donc Dieu te donne la gloire, en plus son Esprit glorieux repose sur toi. Ça fait deux bons versets, moi je commence à apprécier là. Un Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. J'aime bien parce qu'on met en parallèle la gloire de Dieu, quelque chose qui peut être parfois très abstrait, quelque chose qu'on a du mal à toucher, on le met en rapport avec quelque chose qui est très concret. Un de nos besoins les plus vitaux, manger, boire. C'est incroyable. Parfois, c'est vraiment très abstrait, la gloire de Dieu, non ? On entend « Oh, que la gloire de Dieu !» et on pense que c'est juste la louange, la gloire de Dieu. On pense que c'est juste le moment qu'on passe. Vous voyez ? Mais là, fais tout pour la gloire de Dieu. Même quand tu manges, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, le troisième point, c'est que nous devons refléter la gloire de Dieu en toutes choses. Et en nous mettant en parallèle les choses très concrètes, ça veut dire qu'on doit refléter la gloire de Dieu dans les choses très concrètes. Pas uniquement le dimanche matin à l'église en levant les mains et dire « Seigneur, je te glorifie ». Même dans les choses les plus concrètes qui paraissent être tout sauf spirituelles. Manger, est-ce que manger est spirituel ? Bah, apparemment, il faut refléter la gloire de Dieu même quand je mange. Donc ça devient un petit peu spirituel. Alors, Christ nous apporte la gloire, nous recevons un esprit de gloire et nous devons refléter la gloire de Dieu. On ne va pas lire ce verset-là, mais il est dit aussi que nous allons entrer dans la gloire de Dieu. Prochainement, la mort, la vie, et aujourd'hui on peut bénéficier de la gloire de Dieu, mais on va entrer dans sa gloire totale. Lorsque vous allez revenir dans la présence de Jésus-Christ, ce sera la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Vous allez entrer dans la gloire de Dieu. Alors, tout ça pour vous dire que ta gloire ne repose pas sur ta réussite personnelle. Ta gloire ne repose certainement pas sur ta position sociale. Ta gloire ne repose pas sur la réussite de ta famille, sur tes enfants. Parfois, on a des bons sentiments, nos enfants réussissent quelque chose et on pourrait limite s'enorgueillir, c'est moi qui lui ai appris. Vous voyez, tes enfants ne sont pas ta gloire. Les titres que tu peux avoir ne sont pas ta gloire. Dans ce monde, on va dire « je suis ça », ça reflète ce dont je suis capable. Mais ça, ce n'est pas ta gloire non plus. La façon de t'habiller n'est pas à ta gloire, excuse-moi. Ta façon de parler non plus n'est pas à ta gloire. Parce que toutes ces choses-là qui sont au vu du monde, à notre gloire parfois, sont éphémères. Ça passe, le temps passe. Tu n'emmèneras pas tout ça, tu n'emmèneras pas ton style vêtementaire, tu n'emmèneras rien de tout ça. Mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui détient cette gloire et c'est cette gloire-là qui nous donne et cette gloire-là est éternelle. Donc la gloire de Dieu dans sa présence devient ta gloire à toi. C'est cette gloire qu'il te donne. Il te donne la gloire d'être dans sa présence. La gloire de t'avoir donné cette grâce. On dit la gloire de sa grâce. Ça, c'est ta grâce. Ça, c'est ta gloire. Et parfois, en tant que chrétien, on est là, on a notre vie qu'on construit, on en est content, on en est fier, ça nous apporte un peu de gloire, et on a notre vie chrétienne, mais d'après tout ce que je viens de vous dire, la véritable gloire se situe où ? Dans la présence de Dieu, dans ce que tu vas trouver dans le Père, dans ce qu'il va te révéler, dans ta relation avec lui, là repose la gloire de Dieu. Alors, on a dit que Dieu est la délivrance. Dieu nous rend libres. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, lorsque tu acceptes son salut dans ton être, eh ben, ton entendement change. Moi, avant de recevoir Jésus clairement dans ma vie, j'avais vécu déjà des expériences, mais je m'étais construit toute une mentalité. Il fallait que je gagne de l'argent, il fallait que je voulais faire toutes sortes de choses, je voulais réussir dans ma vie, dans certains domaines. Et puis, Dieu m'a touché, sa gloire est descendue sur moi, j'étais face à lui, il y avait la présence de Dieu. Et il me dit, maintenant abandonne tes rêves, parce que ça c'est tes rêves humains. C'est tes rêves que t'as fabriqués pour t'apporter la gloire, pour être fier de toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, j'ai dit, ah, ça fait mal, je dois abandonner tout ça, mais je tiens à ça, j'y tiens vraiment, j'y tenais. Et j'ai dit, Seigneur, j'arrête, j'abandonne. J'ai laissé tomber. Et là, j'ai commencé à apprendre à dire, Seigneur, c'est toi qui viens à la première place, et maintenant, toi, t'as l'occasion de te glorifier dans ma vie. Par les choix que je vais prendre en fonction de quoi ? De pas pour ma gloire, pas pour ma réussite personnelle, mais pour ta réussite. Si toi tu réussis et que toi tu trouves de la gloire dans ma vie, ben moi je deviens bénéficiaire. Vous comprenez? Occupe-toi des affaires de ton père et il s'occupe de quoi? De tes affaires. J'aime bien ça. On en est au quatrième point. Premièrement, Christ nous apporte la gloire. Nous recevons un esprit de gloire. Nous devons refléter sa gloire. Nous allons entrer dans sa gloire. Et Éphésiens chapitre 1, versets 5 et 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés, dans une autre version c'est prédestinés, d'avance à être ses enfants, qui voulaient adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. L'objectif de Dieu, c'est qu'il te donne le salut et maintenant tu deviens un miroir de sa gloire. Tu célèbres sa gloire. Même quand tu manges, tu célèbres sa gloire. Moi, je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu sur ma femme quand elle mange. J'attends de voir. Ça viendra. Dans la présence de Dieu, pour reprendre notre fameuse pyramide, il y a la sécurité. Dans la présence de Dieu, il y a ta protection. Parfois, on essaie de trouver des personnes qui vont nous sécuriser par leur attitude, par leur comment ils nous parlent. Voilà, on va chercher une situation pour nous sécuriser. On va se faire des toutes sortes de... Mais dans la présence de Dieu, il y a la sécurité. Dans la présence de Dieu, il y a vraiment la protection. Il y a ta protection. Il t'a créé. Et il veut te protéger. Dans la présence, il y a l'amour absolu. Ce besoin d'amour qu'on a parfois, on court après un besoin d'amour. Et ça nous tire vers toutes sortes de péchés. Eh bien, ce besoin d'amour est dans la présence de Dieu. Dieu veut combler ton besoin d'amour. Ton appartenance, il te donne une famille quand tu acceptes Jésus. Tu obtiens une famille. Chanel l'a dit. Quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit ton âge, tu as une famille, tu as des frères et sœurs qui peuvent t'encourager, qui peuvent te parler, qui peuvent vraiment te faire du bien. Et Dieu y a pourvu ça. Il t'a donné Sandy, il t'a donné Rita, il t'a donné pour t'encourager, pour te faire du bien. Il va dans la présence de Dieu, tu auras toute l'estime dont tu as besoin. Toute l'estime dont tu as besoin. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher dans un titre. Toute l'estime dont tu as besoin. Tu vas l'avoir dans la présence de Dieu. Toute l'estime. Parfois, on peut être abattu, on peut se sous-estimer, mais Dieu veut te donner, veut te donner la vision qu'il a de toi, clairement. Et te dire, voilà, tu as de la valeur. Tu as vraiment de la valeur. Ce n'est pas parce que maintenant tu réussis ou tu ne réussis pas que tu n'as plus de valeur pour moi. Tu as vraiment de la valeur pour moi. Tu en as. Et dans ma présence, je vais te montrer que tu as vraiment de la valeur pour moi. J'ai donné mon fils pour toi. Vous voyez, toute l'estime est là. Et souvent, pourquoi on a des objectifs dans la vie? On veut se réaliser, d'accord? C'est notre fameux Maslow, c'est au top là, besoin de se réaliser. On a besoin de se réaliser, on a besoin de se sentir bien dans ce qu'on fait, on a besoin de sentir qu'on réussit, on a besoin de sentir qu'on maîtrise la chose, on a besoin de sentir que c'est quelque chose qui m'appartient maintenant. Mais dans le royaume de Dieu, tu as toute la place pour te réaliser sans empiéter sur le terrain de l'autre. Parce que dans ce monde, tu as besoin de te réaliser, mais bouffe les autres pour te réaliser. Fais des coups bas à ton collègue pour te réaliser. Dans ta famille, ça devient des conflits, vous voyez ? Ce besoin de se réaliser, ça engendre des conflits. Mais dans la présence de Dieu, il y a tellement de place que chacun a sa place. Tu as ton champ, tu as toute la place pour te réaliser avec Dieu. Ah. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Ça va, Cassandre, tu suis? Quel verset maintenant? Marc. Ouais. On va lire une histoire intéressante. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qu'il s'y passait. Ensuite, il se faisait déjà tard. Il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il eut faim, besoin quoi ? Besoin de manger. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir ce qu'il s'y trouvait, s'il y trouvait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Verset suivant, on parle plus du figuier. Ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs, les changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter de marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples ? Mais vous, vous en avez fait un repaire de brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. Alors, c'est vraiment un passage intéressant. Très intéressant. Excusez-moi parce que j'écris partout, moi. Donc, je cherche mes pages. Alors, il faut savoir que le figuier a la caractéristique de porter son fruit, de produire son fruit, les bourgeons de son fruit avant les feuilles. Quand les feuilles arrivent, ça veut dire que le fruit est mûr. D'accord ? Et quand les feuilles arrivent, ça veut dire que bon, le fruit est comestible. Ça veut dire que Jésus arrive devant ce figuier, il est dans une région, il n'y a que ça. D'accord ? Il n'y a que ça, il y en a plein autour de lui. Et il voit ce figuier, il arrive devant ce figuier, et ce figuier, on dit qu'il y a quoi ? Qu'il y a écrit quoi ? Qu'il y a des feuilles. Ça veut dire que s'il y a des feuilles, il y a du fruit. Alors lui, il se dit, je vois des feuilles, je vais pouvoir aller récolter son fruit. Il s'approche du figuier pour récolter son fruit, et là, rien du tout. C'est malheureux pour lui parce que ça lui a valu une parole de malédiction. Et vous savez ce qui est arrivé ensuite. Ça veut dire que ce qui est anormal sur ce figuier, c'est de porter des feuilles. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il porte des feuilles, ce figuier ? Il faut savoir que c'est la période où on est, c'est la période de la Pâque, mars-avril. À cette époque-là, le figuier ne doit pas porter de fruits normalement. Donc c'est vraiment anormal. Pourquoi ce figuier, à la période où il est censé rien avoir, a des feuilles ? Donc normalement, avoir du fruit. On peut se dire qu'il était planté dans une terre fertile qui lui donne la possibilité d'être en avance, d'être précoce. Ce figuier est précoce. Il est en avance sur tous les autres. C'est ça qui attire l'œil de Jésus. Pourquoi il maudit ce figuier-là et pas tous les autres ? Parce que lui est différent. Lui porte des feuilles, les autres non. Lui est précoce. D'accord ? Il est planté dans une terre particulièrement fertile. Mais voilà, malheur à lui, il n'y a pas de fruits, malédiction. Alors tout ça, c'est une symbolique. On pourrait se dire, Jésus, t'es grave, t'as faim, ça chatouille dans le ventre, t'es tout puissant, tu fais ce que tu veux, tu viens vers cet arbre, tu trouves pas de fruits, t'es frustré. Jésus frustré. Alors il se dit, mince alors, ça me frustre. Je vois cet arbre, il est censé donner du fruit, et là, je suis puissant, je le maudis. Mais Jésus n'est jamais frustré. Moi, je ne vois pas Jésus se dire, je suis frustré, mince alors, je n'ai pas ce que je veux, donc... Non, ce n'est pas ça du tout. Jésus n'est pas frustré, c'est une symbolique. Ce figuier, il va illustrer une vérité spirituelle. D'accord ? Suivez-moi bien. Le figuier, on sait que le figuier, c'est un des emblèmes de quoi ? D'Israël. Ça marche ? Que là, vous me suivez. Un des emblèmes d'Israël. Alors, premièrement, le figuier représente Israël. Planté sur une terre fertile. Israël, c'est la terre fertile. C'est le peuple élu de Dieu. C'est le peuple choisi de Dieu. Tout est donné à Israël pour réussir. pour que le royaume de Dieu vienne en Israël, par Israël. Ça marche ? C'est la terre fertile. Or, Israël n'a pas porté de fruits de sainteté et de justice. Donc Israël est bien touffu, mais il n'y a pas de fruits. Ça marche ? Et quand il croise ce figuier, Jésus est en route pour aller où ? À Jérusalem. Deuxièmement, le fruit, c'est le symbole biblique du comportement que Dieu souhaite retrouver chez qui ? Chez le croyant. C'est le fruit que Dieu désire de nos vies, le fruit que Dieu désire venir cueillir en nous. Ça, c'est le symbole de ce que Dieu désire trouver chez le croyant, de son comportement, de sa vie. Regardez l'endurcissement du cœur d'Israël, le peuple élu qui a rejeté le Messie, qui rejette Jésus, et Jésus, qu'est-ce qu'il va déclarer ? Il va déclarer « Le royaume de Dieu sera ôté d'Israël ». Vous étiez fertile, j'allais en vous aller émaner le royaume de Dieu, maintenant je vais ôter le royaume de Dieu et je vais le confier à une nation qui quoi ? Qui va porter du fruit. Parce que Dieu, c'est un bon gestionnaire. Il s'attend, là où Dieu met une semence, il s'attend à du fruit. Il ne plante pas au hasard. Troisièmement, l'assèchement. Assèchement, c'est la métaphore du jugement de Dieu. Dieu va juger là où il n'y a pas de fruit. Alors, figuier plus fruit plus assèchement, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une action, ce que va faire Jésus. Les disciples, ils ne comprennent pas. Ils vont à Jérusalem, ils voient un figuier, ils ne trouvent pas, et puis pouf, il le maudit. D'accord ? Eh bien, le figuier, c'est une action prophétique de ce que Jésus va faire plus tard. Ça marche ? Suivez toujours. C'est une action prophétique du jugement imminent que Dieu va donner, que Dieu va porter. Et on comprend mieux ça quand on met ce qui vient de se passer en relation avec ce qui se passe dans le temple. Cassandre, est-ce que tu peux me mettre le premier verset, Marc, le chapitre, le verset 11. Il faut savoir que avant toute cette histoire qu'on vient de lire, que fait Jésus ? Jésus entre dans Jérusalem. On fait quoi ? Il me rentre sur son petit ânon. Dans sa gloire, on lui met toutes les affaires sous ses pieds. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin ? Une fois entré dans Jérusalem, Jésus, la première chose qu'il fait, il va au temple. Il va voir ce qui se passe dans la maison de Dieu. C'est ce qu'il fait. Mais il ne fait rien à ce moment-là. Il va voir. Et il observe. Il vient dans le temple et il observe, il regarde. Il regarde tout ce qui se passe. Tout ce qui s'y fait, ça passe par ses yeux. Attentivement, tout ce qui s'est passé. Ensuite, comme il se faisait tard, il quitte la ville et il va en Béthanie. Et là, maintenant, qu'est-ce que fait Jésus ? Il revient de Béthanie et son premier objectif, c'est qu'il revient au temple. Il fonce vers le temple. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème. Tout ce qu'il a vu la veille, ça ne lui va pas du tout. Ça ne lui convient pas du tout. Il décide de foncer là-bas et d'aller mettre de l'ordre. Ça marche ? Il va mettre de l'ordre. Ce temple qui est censé être consacré pour la prière, eh ben, se retrouve, c'est le moment de la Pâque. Et au moment de la Pâque, vous avez une activité autour du temple qui est exceptionnelle. Tout le monde vient au temple. Les pèlerins, des gens qui viennent de loin, les gens de la région, tout le monde est là, c'est la fête. Tout le monde vient pour faire la fête pour s'acquitter de ses devoirs religieux. On va venir, on va égorger nos 15 taureaux par rapport à la loi, et puis voilà, c'est fait. Vous voyez, tout ça. Mais alors, d'une loi que Dieu avait instaurée, cette loi qu'il a instaurée, Jésus vient, il regarde et se dit, il y a un problème. Ça vend dans le temple, on utilise la cour, il y a des bêtes partout, il y a des animaux partout. Imaginez, des animaux partout à l'époque, c'est sale, ça pue, ça crie, ça vend, ça surenchérit, alors que c'est censé être le temple, la maison de prière. Jésus voit ça, qu'est-ce qui se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Il s'indigne là, il se dit, c'est pas possible. On utilise la loi. Pourquoi ? On utilise la loi pour faire de la vente. Suivez-moi bien, les pèlerins venaient de loin. Et dans Deutéronome, on nous dit quoi ? On nous dit que chacun devait amener son sacrifice de son propre bétail. Mais le gars qui faisait 8000 km, 5000 km, 3000 km, eh ben c'était plus facile d'arriver sur place sans rien. Donc déjà, la loi, on l'a oublié. Il venait sans rien. Et là, il se procurait les animaux pour le sacrifice dans le temple. Mais nos amis les vendeurs, eux, ils profitent de ça pour vendre à des prix exorbitants. Ils se font de l'argent sur la loi de Dieu. On vend, on utilise la loi de Dieu, on utilise Dieu pour légitimer ce qu'on fait. Et ça, ça ne plaît pas à Jésus. Ça ne plaît pas à Jésus. Première chose. Deuxième chose, la cour est utilisée pour l'inspection des animaux. Il fallait inspecter l'animal parce que c'était tout une sorte de rituel. Il fallait que l'animal soit nickel, il devait être parfait. Il devait être parfait, pas avoir aucun défaut. Et souvent, le petit Alexis qui venait pour faire son sacrifice, il suit bien la loi, il est gentil, il ramène son taureau, il ramène sa biche, il ramène ses pigeons. Eh bien, il amène à l'inspection. Et là, nos petits amis, les inspecteurs, ils disaient « Hop, 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 c'est pas conforme, va falloir passer à la caisse, va falloir acheter. » Et il se faisait encore l'argent. Incroyable, Jésus, il voit tout ça, il observe. Il observe tout ça, il dit « C'est pas possible. » Troisième chose, les changeurs. Nos petits amis qui venaient de loin, qu'est-ce qui se passe? Ils venaient avec leur monnaie romaine, avec l'effigie de qui? Voilà. Et ça, c'était considéré comme idolâtre. Donc, il fallait absolument qu'on utilise la monnaie juive. Alors, on change. Et quand on change, les intérêts sont... Oh! Encore une fois, on utilise la loi de Dieu pour son propre intérêt, pour son propre besoin. Ils avaient besoin d'avoir de l'argent. Ils avaient besoin de... Vous voyez, on utilise la loi de Dieu pour notre propre intérêt. Terrible, Jésus voit ça. Il arrive, il passe devant le figuier. L'action est prophétique. Il dit, maintenant, moi, je vais juger. Je vais juger tout ça. Et il dit, maintenant, je vais au temple et on va mettre de l'ordre. Et c'est prophétique. C'est prophétique de ce qu'il va faire au temple et prophétique aussi pour nous. Vous allez voir. Alors, notre ami Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Face à cette frénésie religieuse, tout est accepté, c'est du n'importe quoi, il y a beaucoup d'activités, c'est religieux, tout le monde vient, c'est religieux ce qu'ils font, parce que ils ont, même ceux qui viennent sans leur bétail, ils ne suivent pas la loi. Ils viennent faire parce que c'est religieux, ils doivent le faire, tout simplement. Alors, le temple paraît comme ce beau figuier bien touffu. Il y a beaucoup d'activités religieuses, on fait ce que Dieu nous demande. On fait ce qu'il nous a ordonné, c'est bien, c'est carré, on fait tout ça, c'est bien feuillu. Mais est-ce qu'il y a une profondeur spirituelle? Est-ce qu'il y a du fruit face à ça, face à tout ce qui se passe? Eh bien, il n'y a aucun fruit, aucun fruit. Jésus dit, il n'y a pas de fruit. Alors, de l'extérieur, le temple, beaucoup d'activités, mais l'intérieur, on peut vraiment conclure qu'il est spirituellement vide. Spirituellement vide. La maison de prière s'est transformée en repère de brigands. De loin, ça donne une bonne impression. C'est couvert de feuilles. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont offerts à Dieu. Il y a un élan religieux impressionnant, voir ces foules se déplacer pour adorer soi-disant Dieu. Mais en réalité, tout est stérile. Comme notre petit figuier là. Stérile. Beaucoup de feuilles, mais il est stérile. Il ne porte pas de fruits. Alors l'interprétation première est pour Israël. C'est pour Israël ce passage-là. Dieu va juger tout ce qui s'est passé. Là où il n'y a pas eu de fruit, il y a déjà jugé, il jugera, voilà. Mais nous, qui sommes-nous? On est la nouvelle Jérusalem, on est le nouveau Israël, on est l'Église. On est le peuple qui maintenant, on est le peuple fertile. Nous, on est dans la position maintenant du peuple fertile. On a des belles feuilles. Mais la question, c'est, est-ce qu'on porte du fruit? Ou est-ce que nos besoins passent avant les besoins de Dieu? Est-ce qu'on porte du fruit? Ésaïe 29, verset 13, je ne sais pas si je te l'avais donné, il parle d'Israël, le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Et il m'en rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que les hommes lui ont enseignées. Vous voyez, c'est un peu, ça résume un peu tout ce qu'on a vu. Il suivait des règles, il suivait des façons de faire. Alors nous, en tant que nouvel Israël, en tant que porteur de la fertilité de Dieu, eh bien, on a vu dans un premier temps qu'on est appelé à la gloire de Dieu. Dieu nous a donné toute sa gloire. Toute sa gloire est à disposition, tout. On a beaucoup parlé du royaume de Dieu, on ne va pas parler de ça, mais toute sa gloire est pour nous, tout. En toute chose, nous devons manifester sa gloire. En toute chose, nous avons accès à sa gloire. Alors, il ne faut pas chercher à répondre à nos propres besoins. Ce monde nous crée des besoins. Vous en êtes conscient. Et notre vie, on est tout le temps confronté entre notre foi et ce qu'on vit réellement. Et alors, parfois, on vit des difficultés, et alors on va dans notre Bible, on va chercher une promesse. Ah, Seigneur. Mais la difficulté, parfois, est issue de quoi ? D'un choix qui n'était pas vraiment très inspiré. Et alors, on va devant Dieu, et on dit maintenant, Seigneur, ta Bible dit ça, voilà, tu vois. Mais on ne porte pas vraiment de fruits. Comment Dieu peut répondre à ça ? Dieu, ce qu'il veut, c'est un cœur honnête, un cœur sincère. Et il a dit quoi ? Aimez-moi de tout votre cœur, de toute votre vie, de tout ce que vous avez. Et à ce moment-là, moi, je vais répondre à vos besoins. Je vais répondre à tout ce que vous avez besoin. Tu ne pourras pas te glorifier au travers de ta réussite personnelle parce que tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup étudié pour réussir. Ah, tu as beaucoup étudié. Ça nous enorgueillait. Moi, j'étais le premier. J'étudiais beaucoup, donc quand je réussissais, c'était la gloire à moi. C'est normal. C'est moi qui révisais, c'est pas le voisin. D'accord ? Et parfois, on va se glorifier de choses. Mais Dieu, il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est abandonne les choses à moi et moi, je vais me glorifier dans tes études. Moi, je vais me glorifier dans ton travail. Moi, je vais me glorifier dans tes richesses. Moi, je vais me glorifier dans tes relations avec ta famille. Moi, je vais me glorifier dans tout ce qui t'appartient. Je veux me glorifier dans ta vie. Mais passe d'abord par moi. Pas parce que ce monde te propose. Parce que ce que ce monde te propose, c'est tout son péché, son privé de la gloire de Dieu. Et ça attire souvent les chrétiens. À avoir des apparences de chrétiens, à avoir des apparences bien touffues, à venir prier, à venir au culte dimanche, mais ça ne porte pas vraiment de fruits. Et notre intérêt, c'est de savoir, est-ce qu'on porte du fruit parce que le jugement arrive ? On va être jugé sur ce que Dieu nous a donné. Il nous donne une terre fertile, il nous donne toute sa gloire, il nous a délivrés de tout ce dont on a parlé dans un premier temps, délivrés de cet esclavage de ce monde qui essaie de nous rendre esclaves de toutes sortes de choses. Il nous délivre de tout ça et il dit par contre, maintenant j'attends un peu de fruits quand même. Hein. Je vous ai vraiment tout donné. Je ne peux pas faire plus. Vous comprenez ? Alors nos petits jeunes là à Mougy, c'était le week-end où ils devaient savoir ce que Dieu avait mis dans leur cœur. Ce que Dieu avait déclaré sur leur vie. Ce que Dieu avait enfoui en eux. Parce que c'est des terrains fertiles. Et Dieu dit maintenant, vos dons, vos talents, va falloir les mettre quoi ? En œuvre pour le royaume de Dieu. Et c'était un bon week-end. Parce que j'ai posé la question et j'ai dit, est-ce que quelqu'un connaît ses talents ici ? Très orgueilleusement, personne n'a levé la main. Parce que c'est très orgueilleux en France de dire, moi je connais mes talents. Moi je sais que je suis bon là-dedans. Franchement. Vous voyez, ça passe mal hein, chez nous. Alors, ils ne savaient pas. Alors, je dis, mince, c'est quand même un week-end où normalement les talents, ils sont censés savoir. Et ensuite, on parle des dons. Vous voyez, j'avais l'objectif, les dons. Alors, on a fait un travail sur les talents. Et ensuite, ben, qui connaît ces dons ? Les dons que Dieu te donne pour œuvrer dans son royaume. Qui sait clairement quel est son don ? Ah, personne ne lève sa main. Et qui a une petite idée ? Et là, trois mains qui se lèvent. Et là, il y a eu tout un travail. Alors, on a travaillé. On a dit, on va parler ensemble. On va discuter. On va regarder par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu met dans ton cœur, pour voir où il t'appelle. D'accord ? Parce que tout le monde ne va pas être comme moi. Tout le monde ne va pas être comme Monica. Tout le monde ne va pas être... Mais on a tous quelque chose. On a tous un terrain fertile pour le Seigneur. Et maintenant, ils sont ressortis de ce week-end-là en disant, je sens que je dois plutôt m'intéresser à ça. Le Seigneur m'appelle là. Vous m'avez suivi ce matin ? On a parlé de beaucoup de choses. Hein. Alors j'aimerais vous dire, tu es une bonne terre. Ce matin, c'est mon message. Tu es une bonne terre. Tu es une terre fertile. Tu es voulu de Dieu. On a dit que tu as été prédestiné. Il a mis des bonnes choses en toi. Mais essaie parfois d'oublier ce monde qui te convainc de beaucoup de choses, de toutes sortes de besoins, de toutes sortes d'attraits. et de dire, Seigneur, ok, premièrement ce que tu as mis en moi. Après, le reste va venir. Vous voyez l'idée? Nous, on a vécu des temps quand j'ai tout abandonné. Mais c'était hier et je dis, Chanel, comment on a fait ces 5 ans là? On a fait des choix, mais c'était juste pas faisable humainement. Tous ces choix qui se sont proposés devant nous. Et on se disait, mais c'est vraiment par la foi. Heureusement que Dieu était là, parce que même avec le recul, on se dit, on ne sait pas comment, pourquoi on a fait ce choix-là. Mais on a pu voir la gloire de Dieu dans des choses folles. Ça marche? Parce que Dieu veut se glorifier en toi. Tu es une terre fertile. Je vais arrêter là parce que c'est l'heure. Alors on va terminer juste, je vais prier. Et j'aimerais que tu puisses vraiment dire à Dieu, voilà, je suis une terre fertile, je vais me décentrer un peu de moi-même. Je ne suis pas juste venu à l'église pour venir chercher une bénédiction de plus. Je ne suis pas juste venu à l'église pour encore une fois être encouragé à continuer. Mais je suis venu pour voir si je porte vraiment du fruit. Et interroge-toi, quel type de fruit je porte? Est-ce qu'il y a un bon parfum qui sort de ma famille? Est-ce qu'il y a un bon parfum qui sort de mon couple, de ma vie personnelle, de tout ce que j'entreprends? Est-ce que c'est à la gloire de Dieu ou à ma propre gloire? Parce que Dieu va juger tout ça et il va éprouver tout ça. Et il t'a donné beaucoup et il va te demander beaucoup. C'est la Bible, c'est pas moi. Alors prions, Seigneur, je veux te demander ce matin vraiment de toucher nos cœurs à nouveau. Seigneur, tu connais notre vie personnelle. Tu connais nos besoins personnels, intimes, Seigneur, qui est au plus profond de nous. Et tu vois, parfois, ces besoins nous tirent, Seigneur, vers des choses, vers des choix et des décisions qui ne sont pas à ta gloire. Et on a vu cette histoire de ce figuier, Seigneur, et nous sommes ce figuier, Seigneur, planté en terre fertile. Et parfois, on est précoce, avant même de porter le fruit de gloire que tu nous appelles à être, Seigneur, et ben, on se donne des apparences pour que les gens nous voient correctement. Mais Seigneur, nous voulons être simples, nous voulons, Seigneur, être honnêtes, nous voulons être sincères et nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, je veux prendre autorité maintenant sur chaque vie ce matin pour que tu puisses, Seigneur, te révéler à nouveau, que tu puisses, Seigneur, te mettre au centre encore, qu'on puisse t'accepter comme le Seigneur de gloire. Oh Jésus, Seigneur, on veut entrer dans un chemin de gloire avec toi. Une vie remplie, Père. Tu as dit que même les oiseaux, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger. Même eux, ils ne s'inquiètent pas. Seigneur, on ne veut pas être inquiet, mais on veut faire ta gloire, Seigneur. Tu vas t'occuper de nous, on veut s'occuper de toi, Seigneur. Jésus, merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont une position dans ce monde. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui ont des talents, Seigneur, qui mettent au service, Seigneur, de leur employeur, qui mettent au service, Seigneur, de leur entreprise, qui mettent au service, Seigneur, de leur propre vie, Père. Mais je te prie, Seigneur, maintenant, de te glorifier dans leur vie. Il ne s'agit pas de tout abandonner, Seigneur, mais il s'agit de te mettre à la première place dans ce qu'on fait, Seigneur Jésus, pour que à toi et à toi seul appartienne la gloire. À toi seul, Seigneur. Parce que là, on porte un fruit que tu vas venir, tu vas t'approcher de nous et tu vas dire, bah voilà, là, c'est un bon fruit, il est mûr. Je prends plaisir à cette vie-là. Seigneur, viens, viens. Viens, Seigneur. Oh, Jésus. Tu sondes les cœurs totalement maintenant.